soir et bienvenue dans vos conversations. Mon invité ce soir, porte-parole de lutte ouvrière, Nathalie Arthaud, candidate à la présidentielle pour la troisième fois. Nathalie Arthaud, bonsoir.
Bonsoir.
Ravie de vous accueillir sur ce plateau. Alors, depuis 15 jours, évidemment, c'est la situation en Ukraine qui écrase tous les autres sujets. Emmanuel Macron a réuni un sommet des dirigeants européens à Versailles. On va l'écouter, il exprime son inquiétude, son pessimisme, c'était il y a quelques instants.
Cette décision est une décision unilatérale de la Russie et rien ne justifie le choix de faire une guerre. Rien ne justifie contre un peuple frère et rien ne justifie ce qu'on a vécu, par exemple, à Mariupol. Je ne vais pas ménager les efforts pour essayer d'obtenir ce cessez-le-feu qui est si important et la possibilité d'essayer d'avoir une sortie du conflit qui puisse être politique. Mais je l'ai dit aux Françaises et aux Français, je vous le dis avec la même honnêteté, je suis inquiet, pessimiste et c'est aussi pour ça que je crois que notre Europe doit être au rendez-vous.
Est-ce qu'il faut une union derrière le président de la République Emmanuel Macron? Est-ce que vous êtes derrière lui dans cette affaire?
Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas derrière les grandes puissances, ni la France, ni les États-Unis, parce que c'est les États-Unis qui comptent en fait dans cette affaire-là, en opposition à Poutine, parce que je pense qu'elles ont été aussi à l'origine de l'engrenage qui a conduit à cette guerre. Voilà. Je pense que Poutine a fait le pas décisif vers cette guerre fratricide. Il la mène de façon monstrueuse et on est bouleversé devant chaque image qui nous vienne d'Ukraine. Enfin, voilà, ces femmes, ces hommes qui se terrent, qui sont terrorisés, ces morts, ces bombardements. Enfin, bon. Mais encore une fois, c'est une rivalité. Et dans la rivalité, on est deux. Et voilà, c'est à l'image de ce monde impérialiste où finalement, c'est une guerre économique de tous les moments qui peut en effet dégénérer en guerre dont sont malheureusement victimes toujours les peuples.
Alors on va y revenir évidemment là-dessus. On va écouter, si vous voulez bien, Robert Ménard, qui est donc le maire de Béziers, soutien de Marine Le Pen, qui d'habitude ne mâche pas ses mots contre Emmanuel Macron, contre l'Europe. Et là, vous allez voir, eh bien, on a un Robert Ménard plus doux que jamais.
Moi, j'ai pas envie d'affaiblir le chef de l'État quand il mène des discussions. Enfin, on peut pas lui reprocher de ne pas avoir tout fait pour éviter la guerre. Alors, évidemment, c'est pas un succès, mais enfin, qui pouvait savoir que ce serait un succès ou pas? Et par ailleurs, je constate avec bonheur que l'Europe, pour une fois, vous savez, se fait entendre, prend un certain nombre de mesures, tape du poing sur la table, c'est-à-dire, en gros, l'Europe dont on rêvait, c'est-à-dire une Europe forte, une Europe qui soit capable de peser sur la scène internationale, j'ai le sentiment qu'elle est en train de naître.
Donc même les amis de Marine Le Pen disent du bien d'Emmanuel Macron, de l'Europe qui est en train de naître. Oui, ça vous inspire des petits sourires.
Mais oui, parce qu'en réalité, ceux qui mènent la danse, encore une fois, ce sont les Américains avec Poutine, en confrontation avec Poutine. C'est la grande puissance qui domine, qui a été à l'origine des choix de l'OTAN, qui a été de ceinturer en effet la Russie de bases militaires, qui a été d'exercer une pression toujours plus forte aux frontières même donc de la Russie. Et c'est en fait, vous savez, dans tous ces rounds diplomatiques, ce qui compte, c'est les discussions qu'il y a en ce moment entre Poutine et Biden. C'est ça qui compte. Alors on n'en entend pas parler. Là, évidemment, on a le prisme français. Alors, il faut toujours applaudir notre gouvernement qui essaye de, voilà, de trouver sa place et de se faire valoir, y compris dans cette situation-là.
On essaie de faire comme si on avait du pouvoir, mais on n'en a pas.
Mais on n'en a pas. Ce sont des gesticulations. Écoutez, moi, j'ai été frappée par Emmanuel Macron quasiment à deux doigts d'expliquer qu'il avait évité la guerre. Et puis le lendemain, craque. Poutine envahissait l'Ukraine.
Alors, vous faites partie des rares, avec Éric Zemmour, à souligner la responsabilité partagée OTAN-Russie.
Oh, pas. Alors, le rapprochement avec Éric Zemmour, non, je le réfute complètement.
Je voulais bien vous entendre sur les différences, voilà. Précisément.
Je le réfute, ouais. Parce que autant Éric Zemmour, comme Marine Le Pen d'ailleurs, ont toujours expliqué leur admiration vis-à-vis de ce régime autoritaire, capable effectivement d'avoir de la poigne, etc. Y compris, il se reconnaissait dans le nationalisme exacerbé, dans l'identité nationale, etc. Alors moi, je suis à l'opposé de tout ça.
Et moi,
j'ai toujours dénoncé ce régime autoritaire qui s'abat d'abord sur le peuple russe et qui, effectivement, remplit les prisons d'opposants, qui empêche toute liberté. Donc voilà, clairement. Mais par contre, en effet, on n'est pas dans un monde, de coopération. Non, il y a un ordre impérialiste. Et l'ordre impérialiste, c'est que les puissances dominantes cherchent toujours à avancer leurs pions. Et moi, ce qui me révolte dans cette situation, c'est que justement, on réécrit en fait l'histoire avec d'un côté, le dictateur Poutine qui est quasiment devenu un psychopathe. Vous allez faire sonder sa psychologie tout à l'heure. On nous explique que Poutine est devenu.
Ce que vous ne croyez pas.
Non, mais absolument pas. Et donc, d'un côté, un psychopathe sanguinaire, et puis de l'autre côté, la blanche colombe. Le monde occidental, porteur des droits démocratiques, porteur de la liberté et de l'harmonie entre les peuples. Écoutez, ça, c'est de la manipulation grossière. Ce fameux camp occidental, ces puissances impérialistes, qu'est-ce qu'elles ont fait en Afghanistan? Qu'est-ce qu'elles ont fait en Irak? Qu'est-ce que la France même a fait au Sahel, au Mali? Est-ce qu'elle a amené la prospérité, la paix, la liberté pour les peuples? Non. Alors, c'est toujours, vous savez, des calculs. C'est toujours, en fait, ces interventions-là, elles se justifient toujours parce que, ce sont des calculs, des manœuvres pour gagner en influence économique.
Alors vous, Nathalie Arthaud, vous préconisez l'option du pacifisme, la résolution par les travailleurs, un levier de la société. Comment aider à cette résolution de ce conflit, si on le prend par la base avec nos outils actuels? Comment on fait?
D'abord, vous me laissez la possibilité de dire que moi, je crois que le pire du pire, ce serait le bain de sang. Voilà, ça, c'est le pire du pire, parce qu'il faut réaliser ce que ça signifie pour le peuple ukrainien et le peuple russe, qui, ils ont vécu, mais entremêlés, y compris même sans... sans en réalité se distinguer et se juger et se voir comme russe ou comme ukrainien. Mais pendant des décennies et des décennies, ce sont des familles, ils ont des enfants, ce sont des voisins, des amis. Enfin, c'est des frères. Ce sont des frères. Et là, vous vous rendez compte, s'il y a un bain de sang, mais on va le payer, ils vont le payer pour des générations. Fossé de sang qui est en train de se creuser, ça va être payé pour des générations.
Et ça, c'est terrible. Votre dénonciation des manipulations, votre souci d'éviter le bain de sang, mais comment fait-on en partant du peuple? Est-ce que c'est ça?
Oui,
c'est ça votre axiome.
Parce que je pense qu'on peut s'appuyer en effet sur l'aspiration à la paix qui existe, y compris en Russie. Y compris en Russie. Alors, je sais bien que tous ceux qui manifestent...
Vous êtes contre les sanctions.
Oui, alors c'est une autre question. On y reviendra tout à l'heure, si vous voulez. Mais en Russie, on sait qu'il y a une opposition à la guerre. On sait que, d'ailleurs, un certain nombre ont manifesté en sachant pertinemment qu'ils seraient persécutés, y compris ceux qui osent écrire non à la guerre, qui se retrouvent emprisonnés sous le coup même de 15 années de prison. C'est quand même... Eh bien, ils le disent, ils l'expriment. Donc, il y a effectivement cette possibilité-là. Et je pense qu'il y a une aspiration aussi à faire taire les armes du côté ukrainien. Eh bien, oui, pour moi, la porte de sortie, c'est ça, c'est que les peuples se parlent et finalement...
Avec quels intermédiaires
par-dessus la tête de leurs dirigeants. Oui, parce que précisément...
Oui, il faut des intermédiaires néanmoins. Lesquels? Comment?
Et voilà, c'est exactement ça le problème. C'est que toutes les guerres, elles prennent au dépourvu, à l'improviste, les peuples, et elle les force finalement à se ranger derrière leur gouvernement, quand bien même elle le déteste, quand bien même les classes populaires les rejettent.
C'est ce qui se passe en France, c'est ce que vous sous-entendez aussi.
Et c'est ce qui se passe aussi en France, en effet. Mais justement, et c'est là que moi je pense qu'il faudrait que les travailleurs s'organisent eux-mêmes et leur propre parti, leur propre politique ne soit pas dupe justement à la fois pour les Russes de Poutine, des calculs de Poutine, mais ne soit pas dupe non plus de ce qui se passe derrière Zelensky.
Quand vous dites ça, on a envie
derrière les des intérêts qui sont à l'œuvre là derrière Zelensky.
Donc quand vous dites ça, on a envie de vous suivre, mais la question c'est assez utopique d'imaginer que là, dans précisément dans les bains de sang dont on parle, eh bien il va se dégager des leaders du peuple qui vont pouvoir parler et trouver une sortie à cet enfer.
Eh bien c'est pourtant ce qui s'est réalisé à plusieurs reprises, c'est-à-dire que y compris face à la boucherie, face au précipice, hein, face aux morts, face aux souffrances incroyables. Hein, et vous savez, je voudrais juste parler de une petite scène que j'ai vue venue de alors je ne sais plus quelle ville en Ukraine, je dois avouer, mais c'était un couple qui s'était terré pendant une semaine, ils n'avaient plus rien à manger. Ils étaient allés chercher des vivres dans un magasin, ils ont brisé la vitrine pour aller se servir dans un magasin. Et ben figurez-vous qu'il y avait un soldat ukrainien pour leur dire que il fallait pour les chasser manu militari et pour leur dire qu'ils n'avaient pas à faire ça, qu'il ne fallait pas qu'ils volent. Vous vous rendez compte? Ce que je veux dire par là, c'est que, vous voyez, on a un pouvoir, en effet, ukrainien, mais qui ne se soucie pas, en réalité, de son propre peuple et qui s'en moque. Mais c'est vrai pour le peuple russe. Donc, encore une fois, c'est la capacité, effectivement, des travailleurs. Mais moi, je ne veux pas donner de leçons ni aux Russes, ni aux Ukrainiens. Mais en tout cas, on a, nous, à en tirer des conclusions ici. Je veux dire, il faut qu'on s'organise, qu'on ait notre politique et qu'on ne soit pas dupe des manœuvres de nos propres dirigeants.
Alors, un mot sur les sanctions. Je vous demandais comment vous vous opposiez aux sanctions contre le peuple russe précisément.
Oui, moi je m'oppose absolument à ces sanctions parce que
c'est pas facile à faire comprendre ça.
Mais si, je pense que c'est facile. Ce sont des souffrances infinies qui sont faites au peuple et aux plus pauvres. Aux plus pauvres, on nous explique qu'on va essayer les oligarques, mais quoi les oligarques? Ils ne pourront plus aller, avec leur yacht sur la côte d'Azur, ok? Bon, ben ils auront leur datcha au bord de la mer Noire. Les oligarques, les riches, y compris s'il y a des pénuries, s'il n'y a plus de médicaments, mais eux, ils en trouveront. Le problème, ce sont les pauvres, ce sont les travailleurs, ce sont les classes populaires, ce sont tous ceux qui souffrent. C'est le monde du travail. Et eux, ils les subiront, ces sanctions. Vous savez, c'est la misère, déjà, c'est la pauvreté pour des millions de
Russes. Mais c'est une autre seule arme, la sanction. C'est pour ça que
vous savez, c'est ce qu'on nous avait déjà dit.
Donc, que doit-on faire?
C'est une arme contre les peuples, contre des peuples qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas voulu cette guerre. Moi, j'ai en tête l'embargo qui avait été mené contre l'Irak dans fin 90. Cet embargo, il a conduit à la mort de 500 000 enfants. Il y a eu une surmortalité folle en Irak à cause du manque de lait, à cause du manque de médicaments, à cause de la malnutrition. C'est ça qu'on veut pour les Russes? Mais rendez-vous compte que si on inflige ce genre de souffrance à un peuple, c'est la meilleure façon de le souder précisément contre son régime dictatorial. C'est la meilleure façon de le jeter dans les bras de Poutine. Donc voilà, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je suis tout à fait d'accord. On peut confisquer tous les biens. D'ailleurs, les confisquer, hein, les biens des oligarques, c'est pas un problème. Mais c'est pas de cela dont on parle quand on parle de sanctions. Encore une fois, c'est le peuple qui va le subir. Et moi, je suis absolument contre.
Alors, quid de la question des réfugiés de guerre? Vous avez vu que certains ont essayé, là, tout récemment, de faire une distinction, comme Guillaume Pelletier, le porte-parole d'Éric Zemmour. Donc, une différence entre des réfugiés déplacés européens et chrétiens, que sont les Ukrainiens, et des migrants économiques. Je cite, hein, Guillaume Pelletier, des migrants économiques venus de la sphère arabo-musulmane qui sont en train de mettre en péril notre civilisation. Ça vous inspire quoi, Nathalie Arthaud?
Ça m'inspire de la révolte, ça m'inspire de l'écœurement, ça m'inspire du dégoût, voilà, tout simplement. Moi, je peux vous dire que je me suis identifiée aussi aux femmes et aux hommes qui étaient sous les bombardements à Alep, voilà. Je me suis complètement identifiée, comme je m'identifie aujourd'hui à ceux de Kharkov ou de Mariupol. Ce sont les mêmes. Nous sommes les mêmes en réalité. Quand on a son monde qui s'effondre là sous un déluge de bombes, on a besoin de trouver un refuge quelque part. Et y compris quand nos mondes s'effondrent parce que c'est la misère et parce qu'on est chassé par la pauvreté. Donc pour moi, c'est la même chose. Et moi, je dis clairement bienvenue aux réfugiés et bienvenue, y compris à ceux qu'on appelle les migrants. Parce que dans ce monde-là, il y a des millions de femmes et d'hommes qui ne peuvent pas vivre là où ils sont nés. Parce que précisément, c'est un monde qui tourne pas rond, c'est un monde qui affame des régions entières. Eh bien, ces femmes et ces hommes, bah, ils ont deux jambes, ils ont deux bras, ils essayent de survivre, de passer des mers, des océans, et il faut leur permettre de circuler, leur permettre de vivre dans ce monde, que je précise, dans ce monde qui regorge de richesses.
Alors, un tout petit tour quand même en France, hein, puisqu'on est en pleine campagne présidentielle, même si ça, voilà, on a un peu tendance à l'oublier. Vous avez entendu ce matin sur RTL, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, annoncer que l'âge de la retraite serait progressivement repoussé à 65 ans. Ça a fait réagir évidemment les autres candidats à la présidentielle, notamment Fabien Roussel et Marine Le Pen. On les écoute évidemment et on vous entend.
La retraite à 65 ans, vous vous imaginez ? J'aimerais bien que les Français essayent de penser à l'état des professeurs des écoles, des infirmières, de ceux qui ramassent les poubelles, de ceux qui ont des métiers difficiles, ceux qui sont dans l'industrie, dans l'automobile, dans le ferroviaire. C'est comme ça qu'on va réussir à rendre attractifs ces métiers. Notre choix de société, c'est pas de faire travailler les Français jusqu'à 65 ans.
La retraite à 65 ans, c'est profondément injuste, objectivement. Ça veut dire qu'il y a un maximum de gens qui n'arriveront jamais à la retraite et qui, ne pourront en sortir qu'à 67 ans. C'est en même temps injuste et totalement déraisonnable.
Alors vous, Nathalie Arthaud, dans votre programme, hein, c'est 60 ans, l'âge de la retraite.
Ben oui, c'est 60 ans. Moi, ça me révolte. En effet, est-ce que vous connaissez l'âge, l'espérance de vie en bonne santé pour les ouvriers ? L'espérance de vie en bonne santé, c'est 60 ans en France, en bonne santé. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire 65 ans ? Ça veut dire bah, qu'on n'a pas de retraite en fait. Voilà. Alors la réalité, elle est bien plus, comment dire, pragmatique, hein, parce qu'en fait, à 55, 56, 57, quand vous êtes cassé au boulot, bah, vous êtes viré, c'est tout. Vous vous retrouvez au chômage. Donc en fait, monter la retraite à 65 ans, ça veut juste dire que pour les travailleurs qui font les métiers les plus durs, les plus pénibles, pour les ouvriers, les plus exploités, les femmes, eh bien, ça veut simplement dire qu'ils se retrouveront au chômage. Au chômage plus longtemps, et ça veut dire qu'ils se retrouveront avec rien du tout pour vivre à la retraite. Donc c'est une ignominie de plus. Et moi je dis, mais pourquoi ce qui était possible il y a 30 ans ne l'est plus aujourd'hui ? Qu'on m'explique pourquoi ? Est-ce que la France est devenue plus pauvre ? Est-ce que la productivité a chuté ? S'est effondrée ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui justifie ça ?
Alors, j'ai quand même une question, parce que quand je vous entends, quand je vois votre passion, j'ai du mal à comprendre comment Lutte Ouvrière, au fond, le parti que vous représentez, continue de chuter. Les intentions de vote de Lutte Ouvrière chutent.
Pas beaucoup chuter.
Non, là, elles ne peuvent plus beaucoup chuter. On est d'accord. Là, on est à peu près à 0,6% d'intention de vote. Mais attendez, en 95, c'était 5,30% au premier tour. 5,72% en 2002. Alors, comment ça chute comme ça, Nathalie Arthaud ?
Vous ne parlez pas des scores de 2007, vous parlez pas... Vous savez, les scores électoraux, pour nous, ça va, ça vient, et ça vient souvent aussi en fonction de l'état d'esprit du monde du travail. Est-ce qu'il y a de la combativité ? Est-ce qu'il y a effectivement des luttes, des grèves, etc. ? Parce que vous savez, ce qui distingue ma candidature, c'est de dire que les travailleurs... Ils peuvent faire les choses eux-mêmes, ils peuvent se défendre. Il ne faut pas qu'ils comptent sur un sauveur suprême, le prochain président de la République, etc.
Mais
c'est précisément parce que on nous éduque à l'idée qu'il faut remettre notre sort dans des politiciens professionnels que, je ne mange pas de ce pain-là et que je dis bah, c'est à nous de faire les choses, c'est
mais
à nous
de battre. Mais vous êtes devenue une politique professionnelle, eh bien, vous aussi,
mais pas du tout, mais absolument
pas. C'est pas une insulte hein, dans ma bouche.
Je ne suis pas du tout une politique professionnelle, tout simplement parce que je gagne ma vie en étant enseignante. Je suis une militante et moi je passe plus de temps d'ailleurs à faire grève et à manifester que sur les plateaux de télé. Donc non, je clairement, mais quand je dis que ce sont aux travailleurs de faire eux-mêmes, oui, réellement, collectivement. Moi ce que je vois c'est que pendant la pandémie, regardez, la société elle a continué de tourner. Pourquoi ? Parce que les femmes et les hommes du monde du travail, ils savent faire le travail, ils n'ont pas besoin de chefs comme ça en permanence au-dessus d'eux. Eh bien moi je pense qu'ils sont capables non seulement d'organiser leur lutte, de se défendre et même de diriger la société. Donc c'est cette idée-là. Alors vous comprenez, c'est tellement à contre-courant de tout ce qu'on entend. Donc il ne faut pas s'étonner qu'on soit en effet quelque peu minoritaire.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une érosion au fond de la conscience de classe ? Une sacrée érosion.
Eh bien, je ne dirais pas ça, même parce que vous voyez, quand il y a un mouvement contre les gilets, comme les gilets jaunes, par exemple, on la voit ressurgir.
Oui, mais enfin, justement, quand ça, il y a... ça s'est pas traduit politiquement dans cette campagne présidentielle.
Ça, surtout, ça s'est pas traduit dans les entreprises. Et c'est là que, d'ailleurs, le mouvement a connu une limite. C'est-à-dire que si on n'est pas en mesure de demander des comptes aujourd'hui au grand patronat, sur l'argent qu'il y a, sur pourquoi il y a tout, ce sont toujours les dividendes qui passent avant les profits, les dividendes et les profits qui passent avant les salaires, avant les emplois. Voilà, si on n'est pas en capacité de mener ce combat-là, c'est-à-dire au cœur même du système capitaliste, en effet, souvent les révoltes, ce sont des coups d'épée dans l'eau.
Mais ça veut dire que les travailleurs ont loupé le coche des...
Mais vous inquiétez pas, les travailleurs, ils sont au boulot, c'est eux qui font tourner la société, ils subissent l'exploitation, et même s'il y a une lutte qui ne s'est pas développée, je peux vous dire que ce qui nous attend demain, c'est des luttes importante, surtout si on pousse la retraite à 60, si un gouvernement se permet, ose aller sur la retraite à 65 ans ou ose encore infliger des reculs, je peux vous dire qu'il y aura forcément des réactions. En tout cas, moi, j'en serai.
Alors maintenant, c'est le moment d'accueillir le directeur adjoint de la rédaction du Point, Christophe Onodibio, qui vient mettre son grain de sel. Bonsoir. Cher Christophe, bonsoir.
J'étais en train de vérifier un peu la biographie de Trotsky. Je me suis aperçu qu'il était né en Ukraine, au sud de l'Ukraine, qu'il avait étudié à Odessa, et que son pseudonyme Trotsky venait du nom d'un de ses geôliers à Odessa. Est-ce que vous pensez à lui en ce moment ?
Énormément, je vais vous dire. Énormément, parce que savez-vous que ce sont justement les révolutionnaires, Lénine et Trotsky, qui les premiers ont donné l'indépendance à l'Ukraine.
Exactement.
L'indépendance à l'Ukraine. Et quand Vladimir Poutine a fait son grand discours pour justifier l'invasion de l'Ukraine, qu'a-t-il dit ? Il a souligné que finalement le péché originel avait été précisément le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui avait été accordé par la politique révolutionnaire. Alors voyez, moi, je suis particulièrement, fière de cet héritage-là. Et je me dis qu'on a beaucoup à apprendre à regarder justement la politique de ces révolutionnaires.
Il a dit aussi, Vladimir Poutine, que la plus grande catastrophe du XXe siècle, c'était l'effondrement de l'URSS.
Ah mais il place clairement ses pas dans le stalinisme, voilà, dans le régime stalinien. Lui, il s'y reconnaît complètement, c'est-à-dire tout ce que nous avons combattu, cette caricature sanglante qu'a été le stalinisme, cette caricature donc du communisme qui a été...
Caricature du combat du peuple, hein, c'est ça ?
Oui, parce qu'effectivement, il y a une bureaucratie qui a confisqué le pouvoir au peuple, aux ouvriers et aux paysans. Et vous savez, juste une petite chose, je ne vais pas être longue là-dessus, mais... La révolution, elle s'est déclenchée précisément en pleine guerre, en pleine Première Guerre mondiale, alors que les paysans et les ouvriers servaient de chair à canon. Alors, ils ont mis du temps, ils ont mis 3 ans, ils ont mis 4 ans pour réaliser que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et que pour sauver leur peau, il fallait qu'ils retournent leurs armes contre leurs généraux, contre le tsar, justement, qui les condamnait à cette guerre. Eh bien, écoutez, moi, je me dis que ce genre de révolte, elle peut exister aussi dans le cadre de la guerre qu'on connaît aujourd'hui.
Faites le parallèle, voilà.
Mais oui,
avec
sûr.
Un nouveau tsar.
Bien
Alors
sûr.
Justement, vous parliez des gilets jaunes avec Anna à l'instant. J'ai lu une interview de vous où vous parliez aussi des gilets jaunes. Où vous disiez, ils ont été réprimés dans la violence. J'appelle ceux qui veulent changer les choses à s'organiser pour se défendre, y compris en retournant les mêmes armes. Là, ça fait un peu peur. C'est la guerre civile.
Alors là, vous aurez du mal à me faire passer pour une violente.
Non, je vais vous faire passer pour rien du tout. Justement, j'étais étonné.
Et tous les gouvernements et tous ceux
les mêmes armes.
Et tous ceux qui se baladent là sur les plateaux en ce moment, nous expliquant qu'il faut qu'on se réarme jusque-là, et que d'ailleurs, la militarisation à marche forcée, etc., vous aurez du mal.
Ouais. Alors c'est quoi retourner les armes ?
C'est quoi les armes en l'occurrence là,
les mêmes armes. C'est-à-dire qu'en effet, moi, il faut qu'on s'organise absolument pour ne pas être réprimé, pour ne pas être réprimé.
Donc, avec les mêmes armes, c'est-à-dire eux, ils ont les armes, si vous parlez de l'armée et de la police, ils sont armés.
Les flashballs, et qu'on s'organise en tout cas pour...
Il faut des flashballs pour les gilets jaunes.
En tout cas, il faut se préparer à être réprimé et en effet, il ne faut pas baisser les bras.
Donc, face à ce
genre de situation, je pense que pour tous ceux qui cherchent à se défendre et à se protéger, c'est une option autant qu'en Ukraine aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Ukrainiens, pour défendre leur peau, ils demandent des armes. Eh bien, moi, je pense que pour défendre sa peau dans un combat social où c'est effectivement une question aussi de vie et de mort, parce que vous savez,
donc, pour défendre
c'est quelque chose que je n'ai pas dit pour les sanctions, mais vous savez, on tue avec des bombes, mais on tue aussi avec la misère. Oui. On tue aussi avec la misère.
Vous n'avez pas fini votre phrase, vous disiez, pour répondre justement à cette
question.
Il faut aussi des armes, en fait.
Pour répondre à une politique qui nous condamne à la misère, qui condamne de plus en plus de femmes et d'hommes à ne pas avoir de vie. C'est révolté. Moi, je pense qu'ils ont tout à fait légitimité à se battre, y compris en utilisant les armes de l'adversaire.
Et qui deviennent leurs propres armes aussi.
Qui deviennent leurs propres armes.
Donc des
Mais
armes,
vous savez,
d'accord.
La première arme essentielle, et qui comptera le plus en fait dans tous ces combats, c'est l'arme politique, c'est-à-dire savoir où on va.
Non mais je vais savoir si c'est des armes politiques qui sont... si c'était des vraies armes en fait, c'était ma question.
Mais ce sera aussi sans doute des vraies armes.
Alors pour finir, Nathalie Arthaud, on voudrait que vous fassiez un peu d'introspection. Quelle question auriez-vous aimé que nous vous posions, Christophe ou moi? Ouais.
Alors là, c'est vrai que c'est rare que je me mette dans, voilà. cette situation-là. Je dois avouer que vous me prenez complètement là, à l'improviste.
On espère bien.
Je sais pas, moi...
On vous en a posé beaucoup, des questions.
Par exemple, là, est-ce que vous pensez que demain, on sera obligé à cette politique-là du sang et des larmes? Voilà. Parce que, vous voyez, moi, c'est ce que j'ai entendu aussi dans le discours d'Emmanuel Macron il y a une semaine. Il nous a expliqué qu'on n'était pas en guerre contre la Russie, mais enfin, c'était un ton très guerrier, et c'était, en gros, moi, tout ce que j'ai à vous promettre...
Le sang et les larmes.
C'est du sang et des larmes.
Et la réponse,
Non, on ne doit pas se résigner au sang et aux larmes. Et que quand justement on nous dit c'est la guerre et il faut serrer les coudes, l'Union nationale, eh ben non, l'Union nationale, les sacrifices, c'est les plus riches qui doivent les faire.
Eh bien, merci Nathalie Arthaud d'avoir été avec nous. Merci cher Christophe, on se retrouve tout à l'heure.